Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais d'habitude à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, c'est un peu particulier, vous avez vu que ce n'est pas la même introduction, ce n'est pas non plus le même type d'épisode. C'est un épisode bonus avec Guillaume Boutin qui est l'un des cofondateurs et le dirigeant de Sens Critique, le réseau social de la culture. Et c'est un épisode que j'avais fait il y a environ un an, que j'avais fait à l'époque en Facebook Live, puisque c'est ce que j'essayais de faire à l'époque. Depuis, Nouvelle École a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Et la raison pour laquelle je sors cet épisode en audio aujourd'hui, et que j'utilise ma plus belle voix de podcasteur pour le faire, eh bien c'est tout simplement que je n'ai plus d'épisode en stock, et que donc je me suis décidé à vous mettre un petit bonus, où je parle d'ailleurs de ça et de la raison pour laquelle je n'ai plus d'épisode en stock. Donc pour ceux qui voudraient écouter cette interview, que j'ai réécouté, que je trouve pas mal, je parle de moi bien sûr, hein, Guillaume Boutin est très bien, hein, c'est moi que j'évalue à chaque fois. Vous pouvez passer cette introduction et dans la description de l'épisode, vous avez des timestamps qui vous permettent d'aller où vous voulez selon les thèmes. Donc le début de l'épisode est indiqué dans la description. Ce dont je voulais parler dans cette introduction, c'est une réflexion personnelle que je me suis faite. Et bien sûr, ce ne sont pas des conseils de vie, hein, ce sont vraiment des réflexions. Ce dont je voulais parler, c'est de la difficulté et pourtant l'importance. De se satisfaire de ce qu'on fait au quotidien. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'épisode cette semaine, c'est parce que ça doit faire 9 mois bientôt qu'il y a un épisode qui sort tous les lundis. Pour ça, déjà, quand je le dis, je suis très content parce que quand j'ai commencé une nouvelle école, j'arrivais pas à sortir des épisodes toutes les semaines. Je sortais des épisodes quand je pouvais, une fois toutes les 3 semaines, une fois tous les mois, parfois 2 semaines de suite. Et c'était n'importe quoi. Et je pense que quand on fait du contenu, ce qu'il y a de plus important, tout qu'on fait, c'est la régularité. Et je dis souvent que la régularité est plus importante que la qualité même, parce que tout qu'on fait, ce qui est vraiment important, c'est de créer une habitude chez les gens qui écoutent. Et puis il y a cette histoire de la meilleure manière de tuer un show télévisé, c'est de le changer d'horaire. Donc, je pense que c'est important de garder être constant, consistent, comme diraient les Américains. Mais donc, sortir un épisode toutes les semaines pendant 9 mois, tout compte fait, je pense que c'est assez fatigant. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Moi, je suis tout seul sur Nouvelle École, donc je dois trouver des idées d'invités. Bon, vous m'aidez à faire ça maintenant. Il y a un site qui s'appelle mostwanted.nouvelleecole.org où les gens soumettent des idées d'invités, ce qui est très sympa. Je pourrais pas tous les inviter et j'aurais pas tous envie de les inviter non plus, mais ça m'aide beaucoup. Mais ensuite, il faut que je contacte ces invités, que je les convainque de venir. Il faut que je prépare ces interviews, il faut que je fasse ces interviews, il faut que je monte ces interviews, il faut que je publie ces interviews, et ensuite il faut que je check les statistiques Nouvelle École tous les jours. Donc, ça prend pas mal de temps, c'est beaucoup de travail, et je crois qu'un de mes plus gros défauts, c'est une sorte d'insatisfaction permanente et de volonté permanente de toujours faire plus. Pas forcément de toujours faire mieux, mais de toujours faire plus. Et ça se traduit par... moi, je suis quelqu'un qui a très peur des choix. J'aime bien avoir toutes les portes ouvertes. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait ces études. C'est parce que j'ai peur, en fait, de choisir. J'ai peur d'entrer par une porte et de fermer les autres. Une fille qui m'avait dit une fois « La vie, c'est de se fermer des portes », et elle avait raison. Moi, j'ai très peur de fermer des portes. J'aime bien avoir toutes les portes ouvertes, pouvoir faire ce que je veux. Mais donc ça implique moi je cours beaucoup dans tous les sens et je fais beaucoup de choses. Et si je vous donne un exemple de ce que je fais en ce moment, eh bien je fais Nouvelle École qui me prend à peu près 50% de mon temps et tout le travail dont je vous ai parlé, qui est quand même pas mal de boulot, qui est environ au moins 3 jours par semaine plein en fait pour faire mes interviews et les sortir. À côté de ça, j'écris de la fiction. J'en parle pas trop, mais ça me prend pas mal de temps et surtout ça me prend pas mal d'espace de cerveau. À côté de ça, je fais partie d'un truc qui s'appelle Mangrove, que j'aide à construire. Et ça me prend du temps aussi. Par exemple, j'étais à Malaga, j'avais organisé une sorte de voyage, et il a fallu l'organiser, et maintenant il faut gérer d'autres choses. Donc ça, c'est du travail aussi. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais du freelancing pour gagner ma vie, parce qu'il faut quand même bien gagner sa vie dans ce monde de brut. Donc je fais ça, je travaille là-dessus. Et puis à côté de ça, j'essaye d'avoir une vie, quoi. C'est-à-dire de voir quand même des gens, d'appeler ma maman de temps en temps, mon grand-père. Et en fait, à chaque fois que je planifie ma vie, je me dis toujours non, mais en fait ça va, ça passe. Si je m'organise bien, ça passe. Sauf que la vie, c'est de faire des plans et de les voir tomber à l'eau, je crois. Et donc ça ne passe pas. Et en fait, ce qui se passe, et le thème, je crois, de récurrent, c'est que je suis toujours en train de faire moins que ce que j'aimerais faire. Et je pense que la raison pour ça, c'est simplement que je veux faire trop de choses. Et donc, je suis dans un état d'insatisfaction permanente et presque de culpabilisation permanente. Et je regardais une vidéo, une interview d'Orelsan à Click, avec Mahmoud Achour, il y a quelques jours. Et Orelsan dit « Moi, mon problème, c'est que parfois, je sais pas quand ça s'arrête parce que j'ai 30 ans, et j'ai plus de 30 ans, pardon, et j'ai toujours l'impression de ne pas avoir accompli des choses. » Et moi, j'entendais ça et je me disais, ah ouais, je vois très bien, mais le problème, c'est que parfois, j'entends ça et ça me rassure. Je me dis, oh là, bah, ça va, si Orelsan se dit qu'il n'a pas accompli des choses, ça va, je ne suis pas fou. Parce que pour le coup, lui, il a quelques albums de platine, il a fait un film, ce genre de choses. Et en même temps, parfois, cette pensée, ça me déprime parce que je me dis, merde, quoi. Si même Orelsan se dit j'ai rien accompli, quand est-ce que ça s'arrête? Et la réponse, il la donne, ça s'arrête jamais. Et je pense qu'en fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est arrêter cette espèce de fiche Bristol, un peu pour reprendre une expression qui donne dans Transfert, dans le podcast Transfert. C'est arrêter cette espèce de liste de choses qu'il faut qu'on ait fini. Parce que sans arrêt, on remet cette satisfaction et son bonheur à un truc qui doit arriver quand on a sorti un film, sorti un album, 10 millions d'abonnés sur son podcast, et ce genre de choses qui, en fait, ne dépendent pas tant que ça de nous. Parce que moi, je peux pas faire grand-chose de plus que faire les meilleurs épisodes possibles. Je pourrais avoir une espèce d'effort marketing intense, mais je pense que c'est surtout un effet à la marge, ce truc. Je pense que 80% de l'effet, c'est de faire un bon podcast. Et j'essaie de faire ça. Mais en fait, c'est tous ces objectifs qui en fait empêche la satisfaction parce qu'on est toujours dans l'attente de quelque chose qui doit arriver et qui doit faire qu'on est heureux. Et moi, je me souviens que quand j'ai commencé Nouvelle École, je me disais, si je pouvais avoir... À l'époque, je crois que quand j'ai sorti mon premier épisode, il a dû avoir 150 écoutes, un truc comme ça. Je me disais, bah, c'est pas mal, 150 personnes, tu les mets dans une pièce, ça fait quand même des gens et tout. Et après, bah, ça avait longtemps stagné. Enfin, stagné, c'était à 200-300 écoutes, 500 peut-être. J'étais content quand ça faisait 500 écoutes. Et je me disais, si seulement je pouvais avoir 1000 écoutes, voilà, je demanderais pas plus, franchement, ce serait génial. Je demanderais plus jamais plus. Et évidemment, c'est complètement faux parce que aujourd'hui, j'en suis à beaucoup, beaucoup plus que ça. Et je suis sans arrêt en train de me dire, ouais, pas mal, mais on peut faire mieux que ça, on peut faire mieux que ça. Et en fait, ça s'arrête jamais. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que du coup, on court dans une... J'invente rien, hein, mais je suis désolé si ce que je dis là, ce sont des poncifs. Mais du coup, on court dans une petite cage de hamster, comme ça, sans vraiment savoir pourquoi, finalement, parce que ça va pas changer grand-chose de faire 10 000 ou 100 000 ou 1 million d'écoutes sur son podcast, comme ça va pas changer grand-chose de réaliser une œuvre d'art majeure. Parce qu'en fin de compte, c'est pas l'accomplissement de l'objectif qui fait du bien, c'est plus le sentiment de faire un truc bien au jour le jour. Et en fait, je pense que ça implique de ne pas vivre à la poursuite d'objectifs, mais de vivre à la poursuite de thèmes. Et là, c'est donc la fin de ma réflexion, et je m'explique là-dessus. Les objectifs, c'est des choses très concrètes, très mesurables, et finalement très binaires. Je l'ai atteint ou je l'ai pas atteint. Ma relation amoureuse a marché ou elle a pas marché. Mon podcast fait 100 000 écoutes ou il en fait pas 100 000. C'est très binaire, c'est souvent très dépendant de l'extérieur, et en fait, je trouve une très mauvaise mesure de la satisfaction et du bonheur, parce que on laisse vraiment le contrôle de son bonheur à des événements externes. Et quand je dis des thèmes, je parle de choses qui sont quand même moins concrètes, moins binaires, mais pas beaucoup plus difficiles à comprendre. C'est par exemple la santé. Est-ce que j'ai le sentiment d'être en meilleure santé ou un peu en meilleure santé qu'avant, ou d'être sur une courbe de progression? Les relations. Alors là, celui-là, il est bien en plus, parce que pour le coup, j'ai vraiment le sentiment d'avoir énormément de progrès là-dessus. Ne serait-ce qu'avec mes potes de Mangrove, qui sont les personnes les plus incroyables que j'ai jamais rencontrées quand même, il faut bien le dire. Et puis tous les gens que je rencontre à travers le podcast, quoi. Ça, c'est quand même aussi quelque chose. Et puis il y a d'autres thèmes, quoi. La créativité. Est-ce que j'ai le sentiment d'être créatif tous les jours, d'être plus créatif qu'avant? Mais ça, c'est d'une évidence incontestable, que depuis que je me suis mis à faire ce que j'aime le plus possible, et ben j'ai jamais été aussi créatif, et j'espère que ça va continuer comme ça. Et donc en fait, je pense que ces mesures de la satisfaction, même si elles sont très dures en fait à mettre en place, parce qu'on a toujours, moi j'ai toujours envie de me comparer aux autres et de voir si je suis meilleur, si je suis moins bon, mais ces mesures en fait à mon avis sont beaucoup plus pertinentes, aussi parce qu'elles sont relatives, elles sont par rapport à soi, elles sont pas par rapport aux autres, mais surtout elles sont par rapport à un temps passé. Est-ce que ma santé va mieux qu'avant? Est-ce que mes relations vont mieux ou est-ce qu'elles vont moins bien? Dans ce cas-là, sur quoi est-ce qu'il faut que je travaille? Et je pense que c'est cette relativité, plutôt que le côté binaire de j'ai réussi, j'ai pas réussi, c'est vraiment très important. Et donc, c'est ce qui m'amène logiquement à la conclusion de cette introduction qui m'entraîne sur cet épisode avec Guillaume Boutin. Parce qu'à l'époque où j'ai interviewé Guillaume Boutin, j'étais dans mon entreprise que j'avais créée avec un ami. J'étais pas spécialement épanoui, que ce soit dans ma vie personnelle, amoureuse, dans ma vie professionnelle. Et quand je regarde le chemin parcouru, en fait, ce que j'ai quand même beaucoup de mal à faire, et j'écoute cette interview, eh bien, je trouve quand même qu'il y a des progrès sur Nouvelle École, qu'il y a une certaine progression, et qu'en fait, j'entends les choses que je demande, j'entends les questions que je pose à Guillaume Boutin, et je me souviens de quelles étaient mes problématiques de l'époque. Et je me dis, bah, c'est bien quand même, on avance, et je crois que c'est ça l'important, c'est d'avancer. Et voilà, C'est la fin de cette introduction. C'est la première fois que je fais quelque chose comme ça. Et ne vous en faites pas. Nouvelle École reprend de plus belle à partir de lundi prochain. Je suis très, très, très content des gens qui vont venir. Vous allez voir, c'est très, très cool. Merci à tous de suivre. Et puis, ben, bonne écoute.
Est-ce que tu peux nous parler de ce que vous faites ici, hein, bah ? Parce qu'on voit pas mal de jaquettes de DVD, un babyfoot. C'est un peu une start-up, en fait.
Écoute, Sens Critique, qu'est-ce qu'on fait? On développe un site qui s'appelle senscritique.com, qui est un réseau social culturel. C'est une communauté de 600 000 membres qui viennent échanger et partager leurs avis autour de la culture. On a six grands univers qui sont les films, les livres, les séries, les jeux vidéo, les BD et la musique. Et donc ici, il y a une équipe d'une petite quinzaine de personnes, constitué de quelques développeurs, beaucoup de développeurs en fait, et quelques personnes aussi pour tout ce qui est partenariat, promo, un petit peu le marketing, le community management. Et voilà, effectivement, on a un babyfoot parce que on est des champions en babyfoot.
Et donc le but de Sens Critique, c'est de permettre aux gens de découvrir un peu des univers culturels, de se créer leur, d'avoir un avis un peu
autre. Sens Critique, il y a trois grands, on a créé Sens Critique pour trois grandes raisons, en fait. La première, donc, quand on a pensé à Sens Critique, c'était en 2007-2008, parce que donc, on est trois fondateurs. On avait auparavant créé un site qui s'appelle gamecube.com, qui est un site d'actualité jeux vidéo.
Que vous devez connaître si vous êtes né avant, avant quoi?
Avant 2005. On l'a lancé, Gamecube, on l'a lancé en 2000, en fait. Voilà. Et donc c'était un site très classique, enfin c'était un média classique avec une rédaction, enfin donc des journalistes, voilà, c'était du 1.0, tout ce qu'il y a de plus classique. Et on a eu la chance de vendre le site en 2007 à CBS, enfin un groupe américain, enfin CNET qui a été racheté par CBS, enfin bref, on a revendu le site et on avait pas mal d'envie suite à cette vente, notamment un vrai besoin perso qui était celui de pouvoir partager facilement en fait ce qu'on aime. On passait nos journées à échanger sur les jeux qu'on a aimés, une nouvelle série, un film, etc. Et on se disait, ce serait vraiment intéressant si on avait un site qui nous permette d'organiser un petit peu tout ça. Et donc, il y avait trois grandes idées. La première, c'était de se créer une espèce de journal de bord, une mémoire culturelle, où on allait pouvoir mettre de côté, noter, critiquer, etc. Tout ce qu'on avait pu voir, lire, jouer, enfin donc film, livre, série, jeu vidéo, moi, je peux pas répéter à chaque fois. Mais donc l'idée, c'était vraiment d'avoir ce journal de bord qui était le truc clé.
Ensuite, pour ça, vous aviez pas Facebook ? Une question qui doit revenir souvent.
En 2008, Facebook, ça commençait, mais c'était pas encore. Enfin, c'était les débuts de Facebook, on va dire.
Je crois que j'ai commencé à l'utiliser en 2008.
Ouais. Ouais, c'était les débuts. Facebook, oui, mais Facebook, le problème entre guillemets, c'est que si hier soir t'es allé au cinéma et t'as posté sur Facebook que t'as bien aimé, je sais pas, t'as été voir Mademoiselle, par exemple, qui est un film qui marche très bien chez nous en ce moment, tes potes vont le voir pendant peut-être quelques heures, pendant 24 heures, 48 heures. Mais si moi, dans une semaine, je veux savoir si t'as bien aimé ce film.
Tu vas scroller tout ton film.
J'ai autre chose à faire. Je pense que ta vie est passionnante, mais je vais pas te stalker comme ça. Non, mais l'idée, c'est surtout de garder une trace, en fait. Ouais. Facebook, on est vraiment dans l'instantanéité. Sens Critique, tout ce que tu fais en fait est référencé, puis surtout on ne parle que de culture. Ouais. On s'adresse à des gens, enfin culture, entertainment. Donc on s'adresse à des gens qui sont vraiment passionnés par ça, et enfin passionnés ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui aiment la partager. Donc t'as cette dimension vraiment journal de bord qui est assez intéressante. Et puis c'est aussi un moyen de répondre à cette question. C'est quoi les 2-3 bons films que t'as vus récemment?
Qu'est-ce que j'ai vu récemment? Je vais jamais voir de film en fait. Ça, quand même, je vois plus.
Pas forcément au cinéma, mais qu'est-ce que t'as vu comme film sympa récemment?
C'est dur.
Si tu remplissais bien ton Sens Critique, tu regardes Sens Critique et tu vois tout de suite rapido les derniers bons films que t'as notés.
Mais c'est toujours une question avec laquelle j'ai du mal, les derniers films que j'ai vus.
Les derniers bons films, par exemple.
Ouais, non, c'est encore plus dur.
Mais même séries, au-delà des, tu vas me sortir les deux séries.
Ouais, je vais sortir, j'ai vu Narcos et j'ai vu Fargo. Et Fargo, c'était la meilleure.
Mais Fargo, c'est sorti il y a 6 mois, 8 mois déjà.
Ouais.
Ouais, mais là, en série récente, sympa, qu'est-ce que t'as vu?
Narcos?
Fargo.
Ouais.
Fargo, c'est la deuxième saison, est sortie il y a 6 mois, 8 mois, si je dis pas de conneries.
Ouais, ok.
Mais donc c'est pas une série récente.
Quand même. Ah, donc il faut que ça ait plus d'un mois pour que ce soit récent.
Non, mais au-delà, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, l'idée, c'est d'avoir une vraie mémoire culturelle. Mmh. Au-delà de l'exemple qu'on cite. Bon, à la rigueur, toi, t'es peut-être pas un gros consommateur de films, mais quand tu mates beaucoup de films, c'est toujours très dur de se souvenir des derniers bons films qu'on a vus, par exemple.
Mmh. Non, c'est vrai.
Même des derniers bons albums que t'as vraiment aimés.
Ouais.
Putain, faut que tu réfléchisses, etc.
Non, surtout, ce qui me manquait, c'était, moi, je cherchais toujours à savoir quand je voulais apprendre un style où, par exemple, je connaissais pas assez le grunge en musique. Je me disais, je connais pas, faudrait que je regarde. Bon, il y a Nirvana, et puis il y a quoi d'autre, quoi. Et ça, c'était un truc qui me manquait, moi, à l'époque. J'aurais aimé avoir, qu'on me donne la liste de tout ce que je pouvais avaler pour bien connaître le genre. Ou alors, si je voulais des films fantastiques, qu'on me donne la liste des meilleurs, du top. Donc, il y avait le top IMDB avec les top 250 movies of all time. Mais une fois passé ce top, j'ai l'impression que sur Sens Critique, vous faisiez ça un peu.
Alors, ça, c'est une dimension, effectivement, sur le site. Alors, soit tu peux te créer des listes perso, toi. Je sais pas, tu peux te faire quelque chose qui va être intéressant, je sais pas, tes meilleurs films de SF, les meilleurs films de ton enfance ou les dessins animés que t'as adoré, etc. Ça, c'est des listes perso qui peuvent être parfois très intéressantes ou pas du tout. C'est-à-dire, par exemple, tu mets, je sais pas, les films que t'as vus en 2016. Bon, c'est pas, ouais, tu vois, ça a pas une valeur de recommandation dingue. Mais en revanche, tu peux créer justement des listes qui sont très intéressantes ou qui peuvent, pour des raisons parfois même qui nous échappent, créer un vrai engouement. Par exemple, la liste la plus populaire sur le site, la plus vue all time.
C'est avec le métro, là.
Exactement. C'est la liste des films préférés de mes voisins dans le métro. Et donc, c'est un de nos membres qui, à chaque fois, il prend le métro, il demande à son voisin quel est son film préféré.
Ah, d'accord, c'est ça qu'il fait, mais c'est excellent.
Ouais.
Et du coup, je vais directement aller voir cette liste.
Voilà, où t'as...
Combien de personnes suivent cette liste?
Plusieurs milliers, mais en vue, je crois qu'on est à plus d'un million, peut-être même 2 millions de vues. Un truc comme ça, c'est assez marrant, ouais. Et après, des listes comme ça, t'en as plein. On a plus d'un million de listes qui ont été créées sur le site, en fait. T'as des listes, je sais pas, des films avec les têtes coupées. T'as un mec qui s'est amusé à recenser tous les films dans lesquels il y a les têtes coupées. Donc, tu vois, ça va des films de zombies un peu gore, je sais pas, jusqu'à des films de guerre ou des choses comme ça. T'as un mec qui va faire les films les plus contemplatifs. Et puis après, on a des listes qui sont vraiment complètement nawak. Enfin, qui sont complètement n'importe quoi. Par exemple, à l'époque ils vont détourner des phrases d'hommes politiques, par exemple. Donc, ça va être la liste de Sarkozy, je sais pas, et tu vas avoir des titres de films complètement improbables avec des expressions du type casse-toi pauvre con, qui sont plus aussi de manière à s'exprimer. Donc là, on est moins dans la recommandation, on est plus dans une expression, une expression différente.
Tout le monde peut un peu créer son univers ou trouver son univers. Toi, c'est quoi les... Toi, tu suis des listes ou t'as fait des listes?
Moi, j'ai fait des listes. Oui, il y a une liste que... Non, je rigole parce que
le titre est absurde.
Non, c'est que ça n'a aucun autre intérêt que pour moi, mais pour moi, ça en a beaucoup. C'est la liste des films que je mate dans l'avion.
Enfin, bon, putain, il y a un seul certain type de film que tu mates dans l'avion.
Exactement. Bah, un film que j'ai très envie de voir avec une belle image. À première vue, je vais pas le mater sur mon écran de 4 cm par 8.
Moi, j'ai vu et donc Skyfall dans l'avion.
Bah, ça je ferai pas, par exemple.
Ça a perdu un peu de son charme, ouais.
Non, bah moi je mate que des bouses dans l'avion. Donc j'ai une liste, en fait. Donc quand je prends l'avion, je mate vraiment que des films de merde que je sais que je verrai jamais.
Je mets avec Ben Stiller.
Ouais, ou des comédies françaises ou des choses vraiment difficiles, quoi.
Mais alors c'est quoi les deux derniers bons films que t'as vu que t'as ton truc sur Sens Critique?
Bah il faudrait que je regarde, mais non mais là je le sais parce que si moi mes deux derniers grands coups de cœur, il y a Mademoiselle, qui est un film de Park Chan-wook, qui est le réalisateur de Old Boy notamment.
Ah, très bon.
Donc c'est un film qui marche très
bon,
très
Old Boy.
Ah ouais, magnifique. Et ouais, c'est un film qui marche très très bien et le film est génial. Il est sorti il y a 2 jours. C'est un film à la fois magnifique.
Pardon. On t'écrit.
Ouais, il y a des gens qui me voient sur Facebook.
C'est la télé. Salut
coucou,
tout le monde.
Coucou.
D'ailleurs, je peux en placer une pour ceux qui nous regardent. Si vous pouviez partager la vidéo, qui lui fait gagner beaucoup d'audience.
Oh, ouais.
Qui va rendre le show célèbre. Bientôt, ce sera.
Bonjour maman.
Voilà.
Non mais donc il y a Mademoiselle, ouais, qui est vraiment un film que je recommande à tout le monde, qui est magnifique et superbe. Il y a un film que j'ai vu cet après-midi en super avant-première qui est Monster Calls, enfin en français c'est quelques minutes après minuit.
Tu viens de donner le nom en VO et ensuite de dire ah en français.
Ouais, alors on se la raconte bien comme ça, mais ils ont changé de titre récemment.
OK.
En fait, ça faisait des semaines qu'on bossait dessus, c'est pas que j'ai le truc. Mais c'est vrai que ça fait bien, on va te dire.
Non, mais je fais pareil, attends. English.
Non, mais la prochaine fois, je ferai exprès, j'ai pas fait exprès. Enfin, bref. Et, le film du réalisateur Bayona, qui avait fait, notamment, L'Orphelinat.
Ok.
Qui est le plus grand succès espagnol de tous les temps.
Écoutez, parce que vous avez les recommandations du,
Ouais, alors, tu sais, sur Sens Critique, enfin, moi, mes recommandations, on s'en fiche, hein, parce que c'est l'intérêt aussi de Sens Critique. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure.
C'est l'intérêt.
C'est la deuxième dimension de Sens Critique. Donc, t'as ce côté vraiment très perso à toi où tu te crées ton univers. Tu vas noter, critiquer tout ce que t'as aimé, créer tes listes, etc. Mais t'as la dimension sociale où tu vas pouvoir, décider de qui, comment tu vas constituer ton réseau sur le site. Mmh. Et tu vas choisir les gens qui vont être ce qu'on appelle chez nous des éclaireurs. Donc, ça fonctionne comme sur Twitter. Tu suis des gens.
Des influenceurs, en fait.
Non, peu importe. Non, parce que oui, dire, toi, par exemple, t'es peut-être pas influent du tout, mais je sais pas, on est copains ou t'as bon goût.
T'es quand même à la télé. Hein.
Ouais, pardon, c'est vrai. Excuse-moi. Non, mais ce qui compte surtout, c'est que tu vas suivre la vie de gens qui comptent pour toi.
Ouais.
Donc, ça peut être soit des potes. Bah, typiquement, tu t'inscris avec le Facebook Connect. On va te dire quels sont tes amis Facebook qui sont présents sur le site. Mm-hmm. Ça peut être des mecs, des gens que t'as vus sur le site et tu te dis, ah bah tiens, j'aime bien ces critiques. Maintenant, je vais le suivre. Et donc, comme ça, tu vas avoir ce qu'on appelle tes éclaireurs. Et à chaque fois que tu iras sur la fiche d'un film, tu verras spécifiquement les avis de tes éclaireurs à toi, indépendamment de l'avis de la communauté. Mmh. Et c'est là où c'est intéressant, parce que bah, c'est notamment grâce à ces personnes-là que tu vas pouvoir découvrir des choses que tu aurais peut-être jamais découvertes. Et ensuite, tu peux les suivre à travers un fil d'actualité qu'on appelle chez nous le live, qui fonctionne comme Twitter, et tu vois toutes les dernières activités de tes potes, enfin, de tes éclaireurs. Voilà, et donc ça, c'est cette dimension sociale où tu crées aussi ton réseau et les gens qui comptent pour toi, indépendamment de la Vox Populi.
Finalement, vous permettez aux gens de sortir de la du monopole des critiques à la Allo Ciné ou des critiques des grands magazines, etc. Parce que j'ai l'impression qu'on pourrait faire la même chose avec la bouffe un peu. Moi, j'ai toujours l'impression.
On nous a pas attendu pour la bouffe. Hein, enfin.
Mais alors, qu'est-ce que tu utiliserais pour la bouffe, pour qui serait comme
bah,
ça?
Aujourd'hui, TripAdvisor, c'est devenu.
Ouais, mais TripAdvisor, c'est un peu l'enfer, non?
J'ai pas apporté de jugement dessus. Tout ce que je sais, c'est que ça fonctionne plutôt bien.
Ouais. Parce que c'est ça, justement, tu veux, moi, j'aime, enfin, ce qu'il faudrait, c'est avoir un mix des personnes que tu connais, parce que c'est les premières personnes que tu vas croire, en fait. Et t'as ce premier niveau de, tu vas croire les personnes que tu connais.
Ouais,
plus tu peux avoir un peu d'avis officiel.
Mais tu peux débattre avec eux aussi. Enfin, l'intérêt, ouais. c'est pas que d'avoir son avis, c'est aussi de confronter le tien et de créer des échanges, des discussions, autour de tout ça. Dire ah non putain t'as mis 3 à ce film là mais non c'est pas possible, je te déteste, je te raille de ma ligne d'amis, etc. Mais après justement ça va créer des échanges, des discussions et pourquoi pas derrière des découvertes.
Et ça c'est intéressant parce que c'est presque la partie la plus importante de ce genre de site, non? Quand on va sur SoFoot, pour ceux qui suivent le foot, ce qui est intéressant c'est les commentaires, en fait c'est les gens qui s'engueulent ou qui débattent sur le foot, etc.
Pareil, après le foot ça s'y prête vraiment, quoi.
Ouais, mais
et les forums de jeux vidéo aussi, oui, beaucoup.
Bah voilà, j'allais parler de Game Cult, ça me fait penser à ça aussi.
Là, ouais, on est complètement d'accord. Si ce n'est que sous, c'est assez cadré, ça part moins en couille que dans des forums.
Ouais.
Non, parce que t'es toujours autour d'un sujet, etc. T'es toujours autour d'un. Tu prends l'exemple de SoFoot. Le foot, c'est voilà, on est vraiment dans le. Bah, c'est le café du commerce. Tout le monde
même
a un
si
avis.
SoFoot, c'est d'avoir ce côté un peu Sciences Po.
Oui, mais parce que c'est marrant et puis ouais. Ils ont une ligne rédactionnelle et même sur leurs autres titres qui est assez géniale, que moi j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais des groupes de presse comme. Enfin, je connais plus le nom du groupe, mais que ce soit Society, SoFilm, etc. Aujourd'hui, t'en as très peu.
SoPress.
Aujourd'hui, t'en as très très peu. C'est moi, par exemple, le seul magazine de Cinoche que je lis, c'est SoFilm, quoi. Mais je pense qu'aussi le succès, enfin en tout cas le relatif succès qu'a Sens Critique, vient aussi du fait que les avis de la presse, je vais peut-être pas me faire que des copains, mais les avis de la presse, en tout cas en cinéma, sont de moins en moins prescripteurs.
Pourquoi?
Vaste sujet. Déjà, est-ce que ça t'intéresse la vie d'un mec dont c'est le boulot d'être critique, c'est-à-dire un type qui va voir, je sais pas, 10 films, 15 films dans la semaine? Lui, il va porter un jugement, il va porter un regard qui n'est peut-être pas du tout le même que le tien. Toi, tu vas aller au cinéma une fois par semaine, voire une fois par mois, donc t'as peut-être pas son exigence intellectuelle, t'as peut-être pas. Et surtout, et c'est aussi pour ça qu'on a créé Sens Critique, c'est que ce qui compte avant tout, le graal de tout l'entertainment, le graal de la culture, c'est le bouche-oreille. Ce qui compte le plus, ce qui fait qu'à un moment, un film, un livre ou une musique va marcher, c'est le bouche-oreille. C'est parce que les gens vont en parler. Tu peux avoir des films qui sont encensés par la presse et qui vont se fracasser. À l'inverse, des films qui se font démonter par la presse, mais qui vont très bien fonctionner. Donc aujourd'hui, ce qui compte le plus, c'est que les gens parlent entre eux. Et c'est ça qui fait, dans 90% des cas, le succès d'un film, d'un livre, d'un jeu vidéo, etc. Bien que dans le jeu vidéo, pour apporter un petit bémol, c'est un petit peu différent, parce que le jeu vidéo, l'avis de la presse est probablement plus important que dans le cinéma.
Pourquoi ?
Pour plusieurs raisons aussi. D'abord, parce qu'un jeu vidéo, c'est cher. C'est-à-dire que aujourd'hui, regarder un film, au pire, tu vas au cinéma, si t'as une carte UGC, si le film est pas très bien, t'as perdu 2 heures, mais t'as pas perdu beaucoup d'argent. Mmh. Un jeu, tu veux acheter un AAA, ça va te coûter 65 ou 70 euros. Tu vas être vraiment sûr de ton investissement. Donc tu vas vraiment lire ce que dit la presse. Et puis en plus, c'est assez. Tu peux évaluer un jeu vidéo en partie de manière objective. S'assurer qu'il n'y a pas de bug, qu'il y a eu un bon boulot en termes de dev, etc. Tu as des critères qui restent à peu près objectifs. Pas tout, mais tu as une partie d'objectivité.
C'est vrai que dans le ciné, tu arrives très vite dans le subjectif.
Bah oui.
T'as des critères de base, c'est vrai que c'est hyper mal réalisé, que l'image est dégueu, que les.
Mais t'as des films, mais t'as des films que t'adores pour des raisons perso, parce que ouais. Ça va toucher, parce que. Et surtout, tu n'auras pas cette exigence que t'as avec un jeu vidéo qui est très impliquant. Puis un jeu vidéo aussi, ça va te prendre 20 heures, 30 heures, 40 heures. Tu veux pas te tromper quand tu commences un jeu vidéo.
Non, puis ça dépend vraiment du moment de ta vie. C'est moi, il y a plein de films que j'ai vus, mais ne serait-ce qu'il y a 5 ans, où j'ai dit à tout le monde, c'est génial, il faut absolument que tu vois ce film, que je revois maintenant, je me dis merde, j'ai conseillé ce film à tout le monde.
Et puis, il y a les films de merde que t'aimes bien.
Ouais.
Nous, on a un de nos top.
Quel est ton film de merde préféré?
En plus.
Quel est ton deuxième film de merde préféré?
Non, mais non, parce qu'on a un top. Parce que, d'ailleurs, je rouvre une petite parenthèse.
C'est les Gérard, c'est ça?
Non. En fait, tu sais, on a des listes perso. Ouais. Donc tu fais tes listes. Mais en plus, on crée des tops qui sont des sondages. Okay. Donc tout le monde vote. Donc on a des tops officiels et on a notamment le top des plaisirs coupables. Donc ça s'appelle les plaisirs coupables.
Ok.
Et dans mes plaisirs coupables, j'ai Top Gun.
J'ai American Pie, moi.
J'aurais pu le mettre, tu vois, parce que j'aime bien. Ouais. Pour le coup, je me souviens plus du titre en anglais, donc je vais pas pouvoir me la jouer. J'ai Frangin malgré eux. J'ai Wall Street. Okay. J'adore. Tu vois, enfin bon, moi je suis.
Moi j'ai Harry Potter en bouquin, en plaisir coupable. C'est-à-dire que je l'ai vraiment lu chacun, je pense, 6 ou 7 fois.
Ah bah c'est pas un plaisir coupable, c'est bien Harry Potter.
Ouais, mais bon.
C'est pas du Proust, fois. Mais. Ouais, mais. Plaisir coupable, c'est vraiment
c'est
te dire, j'aime bien un film de merde.
D'accord, ok.
Donc, oui, Marc Lévy, ça pourrait être un plaisir, entre guillemets, un plaisir coupable.
Mais si nous n'avons rien contre Marc Lévy.
Non, mais d'ailleurs, les gens aiment bien se la raconter. Ils aiment bien donner des mauvaises notes à Marc Lévy, même s'ils l'ont pas vu.
Ouais.
Parce que ça aussi, c'est un phénomène qui est assez intéressant sur Sens Critique, c'est qu'on a compris avec le temps. Quand tu donnes une note à un film, enfin, ou un avis, tu ne fais pas que donner ton avis, en fait. Tu partages une part de toi aux autres. Il y a plein de gens qui n'assument pas, enfin, on en est à peu près convaincus, qui vont mettre des mauvaises notes à certains films alors qu'ils sont vraiment marrés, mais ils vont pas assumer. L'exemple Tarte à la crème, c'est, je sais pas, Bienvenue chez les Ch'tis. Les gens, ils vont dire que c'est vraiment pourri par principe, quoi.
Ouais, ouais.
Alors que si ça se trouve, ils sont marrés devant.
Puis, de toute façon, à partir du moment où un film fait l'unanimité, pour pouvoir un peu exister par rapport à la masse de commentaires, il faut absolument prendre le côté inverse, non?
C'est ça.
Je me souviens de Intouchables. Que moi j'avais trouvé génial et j'étais mort de rire, et en fait après le fait de voir que tout le monde adorait ce film, ça me donnait presque envie d'être en réaction.
Ouais, bien sûr.
Qui a une réaction, un comportement un peu débile, mais c'était ça que ça créait chez moi. En tout cas, j'avais envie de dire oui, mais en fait Intouchables c'est pas génial parce que.
Oui, mais tu vois, et on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est quand tu donnes une note ou un avis, tu ne fais pas que donner un avis, en fait tu te vends un petit peu, enfin tu montres une image de toi qui est pour le coup qui va au-delà même de la pure subjectivité de l'appréciation de ton œuvre.
Et vous, sur Sens Critique, en fait, d'accord, vous avez le ciné, les bouquins, les jeux vidéo. C'est principalement le ciné qui fait tourner le site.
Ouais.
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 Et après, c'est parti comment
Alors, le principal, c'est le film. Ensuite, c'est jeux vidéo et séries.
Qui sont à peu près.
À peu près égales, mais qui fonctionnent différemment. Parce que les séries, ça s'inscrit beaucoup sur la longueur. Bah, tu vois, on parle encore de Game of Thrones parce que on en a la 7e saison et que.
On parle même encore de The Wire dans les cercles.
Ah bah ça, The Wire, c'est. Si rien que pour ça, si on crée Sens Critique, on a permis à des gens de découvrir The Wire, c'est dire qu'on n'aura pas perdu notre temps.
Qui j'ai vu être le numéro 1 de votre top série.
Quel numéro 1 de tout.
De tout.
Non, mais c'est assez intéressant, hein, c'est la seule œuvre, je parle dans les œuvres majeures, hein, qui ont un minimum de notes, qui dépasse 9 de moyenne. Il n'y en a pas d'autre. Le meilleur film, c'est 8,7, 8,6,
c'est quoi,
je crois. Alors ça dépend, mais en gros, c'est 12 hommes en colère.
Très très bon, moi aussi.
Mais tu vois, il a 8,7. Le meilleur jeu vidéo, il a 8,8.
C'est pas Witcher.
Si, The Witcher.
Est-ce que c'est vraiment le meilleur jeu vidéo Witcher?
Bah, j'en sais rien, moi.
Tu games toi encore?
Non, moi je joue, mais j'ai jamais été un gros joueur, moi.
J'ai jamais été un gros joueur.
Non, parce que tu sais, même au sein de l'équipe Gamekult, j'étais plutôt Monsieur Business. Okay. J'étais pas.
Monsieur Monétisation.
Ouais, Monsieur, le Monsieur qui fait que vous gueulez toujours quand vous voyez de la pub ou des choses comme ça sur le site.
Ouais.
Ouais, moi, je suis le mec qu'on n'aime pas. Mais non, j'ai jamais été un gros joueur. Moi, je jouais beaucoup à, je sais pas, Civilization, Gran Turismo, des choses comme ça, mais je suis pas un énorme gamer. Mais j'avais mes deux camarades qui étaient eux pour le coup, qui sont toujours d'ailleurs des sommités sur le sujet.
Sur le sujet, ouais. Et donc du coup là, vous continuez à garder ce positionnement où vous avez en fait toutes ces briques de culture. Vous comptez pas vous positionner sur une seule des briques et
Non. Non, parce que déjà il y a beaucoup de passerelles entre ces univers. Tu vois, pareil, un de nos plaisirs, c'est que il y a beaucoup de membres qui ont découvert Ken Follett sur le site. Ils auraient probablement jamais lu Ken Follett, mais parce que ils ont vu que un pote, je sais pas, avec qui ils échangeaient beaucoup sur le jeu vidéo, ben ils se sont dit, tiens, il a mis 9 sur 10 à Ken Follett, bah tiens, je vais découvrir ce que c'est. Ah ouais, tiens, ouais. Puis en fait, ils vont se mettre à lire. Enfin, pour ça, on est assez content. Donc il y a, y a le la, la La combinaison des univers est hyper intéressante. Et puis ce sont les six univers de la culture aujourd'hui actuelle, en fait,
Ouais.
si on met à part tout ce qui est spectacle vivant.
En fait, vous créez des. Est-ce que vous arrivez à créer beaucoup de nouveaux, enfin, de nouveaux centres d'intérêt chez les gens, par exemple? Est-ce que vous avez des fans de littérature qui deviennent des gamers ou
Ah, bien sûr.
ouais?
Mais quand tu dis est-ce qu'on arrive à créer, nous on fait rien en fait.
Non, bien sûr, mais
Non, mais
enfin, dans un sens, le
oui, mais c'est
produit.
intéressant, c'est que c'est les gens qui s'approprient Sens Critique. Nous, on leur met à disposition les, on essaye en tout cas d'avoir les meilleurs outils, tu vois, bon, on travaille tout le temps à essayer d'améliorer le site. Enfin, les gens s'en rendent pas compte toujours. D'ailleurs, ils ont l'impression qu'on fait rien, mais on passe notre temps à rendre le site. Nous, notre but, c'est que les gens ils consomment le plus de culture possible. Voilà. On est là pour, on est un pouce à la conso. Donc, quelles que soient les manières, quel que soit l'univers, chacun a ses univers. Tu vois, par exemple, pendant longtemps, on se demandait, tiens, c'est qui l'utilisateur Sens Critique?
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc on a essayé de comprendre. Et en fait, on a arrêté de chercher parce qu'il n'y a pas un utilisateur, il y a des dizaines, voire des centaines de types d'utilisateurs. T'as, je sais pas, les fans, t'as des fans de manga qui vont se retrouver qui vont parler que de manga, t'as des fans de SF, t'as des fans de films d'action, t'as des fans de films d'auteur, t'as des fans de films des années 40, 50. Et t'as beaucoup de passerelles qui se créent. Par exemple, on a quelques membres qui sont des vraies pointures sur le cinéma justement des années 40, 50, 60, qui sont des vrais évangélistes auprès de plein d'autres membres. Je sais pas, des gens de 15, 20, 25 ans qui veulent s'intéresser au cinéma et ils disent, bah ouais, j'ai jamais vu un film en noir et blanc, j'ai jamais vu un film de War Hughes ou je sais pas quoi. Ils savent qu'il y a quelques membres sur le site qui sont un petit peu des pointures sur le sujet et grâce à eux, ils vont pouvoir découvrir justement ces films-là. Et ça, c'est une vraie victoire,
Ouais,
on est
c'est trop
assez
bien.
fiers.
Et ça vous arrive de les rencontrer, les membres?
Assez souvent,
Ouais.
très souvent même. Bah d'une part, il y en a quelques-uns qui sont venus nous voir au bureau. De temps en temps, ça nous est arrivé de payer une bière à quelques membres. D'ailleurs, souvent ceux qui nous enquiquinaient. Parce qu'à un moment, parce qu'en fait, depuis le départ, on a été très proche de nos membres, notamment à travers les feedbacks. On a un bouton feedback sur le site et on a toujours essayé de répondre au maximum à tous les feedbacks. D'une part, parce que ça nous permettait de corriger les bugs. Ça, c'est quand même assez super. Mais c'est vrai qu'en étant vraiment à leur écoute, tu les encourages. Et c'est entre guillemets du gagnant-gagnant parce que les gens ils sont contents, t'améliores le site et toi ça te permet aussi d'améliorer ton site en t'appuyant sur ta communauté. Donc on a toujours été assez proches d'eux, on a beaucoup discuté avec eux. Ou alors bah, je sais pas, ils vont s'énerver parce qu'ils veulent une fonctionnalité qu'ils n'ont pas, etc. Et souvent quand ils étaient vraiment trop énervés, ça s'est fini autour d'une bière au bureau. Alors c'est pas une raison pour que tout le monde s'énerve, hein. On n'a pas
Si
des
tout le
bières à
monde
tout
vient
le monde,
gueuler, ça.
non. Mais je plaisante. Et à travers ça, non. Et le vrai truc surtout, c'est qu'on organise très souvent des projos. Des projos, alors soit on fait des avant-premières classiques, soit on a une petite spécificité, c'est pas les ciné-expériences, c'est des
T'as pas le
projections
droit de choisir le
en...
film, tu sais pas quel film tu vas voir, c'est ça?
Exactement. C'est une projo en blind, donc on donne un lieu, etc. Et toi tu viens et tu sais pas quel est le film que tu vas voir.
Ok. Et alors je vais vous montrer quoi? Des gros
Non,
nanars?
non, non, c'est toujours des avant-premières et c'est toujours dans le cadre de films dont on est partenaire.
Ok.
Ça rentre dans un cadre promo.
Et donc là, vous monétisez par rapport à ça aussi ou...
Ouais, alors ça rentre dans un cadre plus global de
Ouais,
monétisation du
d'accord.
partenariat.
Ok.
Parce que notre manière de monétiser, en gros, c'est d'essayer d'exposer les films sur lesquels on travaille. Donc c'est beaucoup les films, un peu les séries, un petit peu le jeu vidéo, mais c'est surtout les films. Et on va essayer de on va pousser un petit peu le film pour que les membres interagissent avec le film. Donc on n'a aucune influence sur la note, parce que ça, la note, de toute façon, t'as aimé, t'as pas aimé, ça on peut pas jouer. Mais en revanche, on peut essayer d'influencer, entre guillemets, la popularité, et permettre à des films qui sont pas forcément très connus d'émerger, et de leur donner une visibilité qu'ils n'auraient jamais eu si on n'avait pas été partenaire. Et ça passe par plein de mécaniques, et notamment l'organisation de ces ciné-expériences.
Donc vous, votre but, c'était vraiment de créer un produit qui fonctionne sans vous, en fait.
Exactement.
Et c'était un peu la même chose sur Gamekult.
Ah bah non, parce que Gamekult, on crée le contenu. Ouais. Nous, aujourd'hui, on crée pas de contenu, on crée zéro contenu.
Okay.
Bah, tu vois, on anime une page Facebook, un compte Twitter, etc. Mais aujourd'hui, nous, on met à disposition une base de données d'œuvres culturelles
okay.
qu'on essaie de tenir à jour le plus possible, avec le concours des membres, d'ailleurs, parce que les membres peuvent eux-mêmes créer des fiches, etc. Mais après, nous, on n'a pas d'avis, on n'a pas de ligne rédactionnelle, on n'a pas d'éditorial.
Et pourquoi vous vouliez que ce soit comme ça? Pourquoi justement vous vouliez ne pas avoir de ligne éditoriale, ne pas avoir à créer le contenu et...
C'est une bonne question. Déjà sur l'aspect réseau social. Moi, si je vais voir un film, dans 90% des cas, c'est parce que mes potes m'en ont parlé, quoi. Donc à la base, quand on a créé Sens Critique, c'était aussi un peu, c'est entre guillemets un besoin perso, mais en tout cas, on voulait mettre en digital ce que nous on vivait au quotidien. Mmh. Et nos discussions, nos débats, mais on se souvenait jamais, on savait plus. Puis voilà, Sens Critique, tu mets tes films de côté, que t'as envie de voir, tu sais que tu les oublieras pas. Tu sais que quand ils sortent au Cinoche ou en VOD ou à la télé, on va te les remonter, etc. Donc c'est un outil qui va te permettre d'organiser un petit peu ce bouche-à-oreille. Donc la base c'était, enfin et c'est toujours ça d'ailleurs, mais la base c'était vraiment ça. Donc et on voulait s'affranchir effectivement de la critique presse classique qui nous semble, enfin.
Pas pertinente.
Non, c'est un petit peu exagéré, mais en tout cas pour une certaine catégorie de films.
Ok.
On va dire que si on met à part les médias très classiques et prescripteurs sur une certaine catégorie de films, enfin en gros tu vois, je sais pas, des Télérama, des France Inter, des choses comme ça qui sont pour le coup qui ont un vrai rôle, qui est indéniable de soutien sur des films, etc. C'est qu'une partie des films en fait. Il y a plein d'autres films aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de visibilité, et cette visibilité, on va l'appuyer sur des vrais gens, et pas forcément sur des critiques. Et puis, un vrai truc, d'ailleurs, qui a été assez amusant, un vrai pari qu'on a, bon, on a pas tout gagné, et loin de là, encore, on a beaucoup à faire, mais un vrai truc qu'on a gagné, qui nous a fait très plaisir, c'est de se rendre compte à quel point nos membres écrivaient bien. C'est-à-dire que c'est assez impressionnant de voir, alors, il y a quoi? Il y a 5% des membres qui critiquent sur Sens Critique. Il y a 95%, ils donnent des notes, ils font des listes, etc., mais ils critiquent pas spécialement.
C'est un peu le ratio d'Internet en général, quoi, des gens qui...
Ouais, bah oui, parce qu'il faut avoir une certaine plume, faut avoir le courage, faut aimer ça, quoi.
Ouais, ouais.
Et vraiment, c'est assez incroyable de voir, on a des membres vraiment qui sont devenus, enfin, pas des stars, mais qui, parce que c'est très exagéré, mais qui ont une vraie communauté derrière et dont on attend les critiques parce qu'ils ont un vrai style, ils ont un vrai ton.
Moi, j'ai lu une super critique de jeux vidéo sur Sens Critique il y a quelques mois qui avait été partagée par Nanark. Voilà, donc je ne me rappelle ni du titre qu'il a écrit ni du jeu vidéo, mais je sais que j'avais trouvé ça
super
génial,
intéressant.
À quel point c'était marrant et c'est hyper long format et c'était hyper marrant, hyper prenant et j'avais vraiment l'impression d'avoir ça me faisait penser aux articles d'un mec qui s'appelle Odieux Connard
Odieux Connard
que j'aime beaucoup,
qui a été un des premiers utilisateurs du cinéma.
D'accord.
Ouais.
Bah voilà, et en fait on a l'impression, on se rend compte que Sens Critique, c'est un site qui est hyper addictif, non? Parce qu'on va passer son temps à aller lire des reviews.
Pas forcément pour tout le monde, mais oui, bah c'est le but, ouais.
Et comment est-ce qu'on fait pour créer un produit qui est addictif, en fait? Comment est-ce qu'on fait pour créer un produit où les gens vont pouvoir revenir, passer du temps? Ça, c'est une question qui est large et qui est compliquée.
Bah, on travaille tout le temps dessus. C'est une question. Il y a pas de réponse. On essaie de faire un truc qui nous plaît.
Ouais,
à l'ensemble de l'équipe.
Gratter votre.
Ouais, et puis on a essayé beaucoup de choses. On a eu. Si on se place d'un point de vue un petit peu plus business, on a eu. Alors, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, on n'a pas eu d'investisseurs en fait. On a nous-mêmes financé l'aventure, notamment grâce à la vente qu'on avait effectuée avant. Donc, on a pu entre guillemets prendre notre temps, se tromper, parfois faire des virages à 180 degrés, enfin supprimer des pages, des fonctionnalités, dire bah non ça va pas. On n'avait pas cette pression extérieure, donc. On a toujours essayé de faire un truc qui nous plaise déjà à nous, enfin en tout cas à l'ensemble de l'équipe. On n'arrive pas toujours à des consensus, puis d'ailleurs on a souvent des débats assez houleux, mais on est tous utilisateurs du site. D'ailleurs, tu peux pas rentrer dans l'équipe Sens Critique si t'étais pas un tout petit peu utilisateur du site. Je suis même surpris, d'ailleurs, ça nous arrive parfois d'avoir des gens qui nous envoient des CV ou qui postulent et ils sont même pas créés de compte. Bon, déjà, c'est pas très malin.
Je me suis créé un compte avant de venir faire l'interview.
Mais ça, on va pas t'embaucher, toi.
Ouais.
Mais ouais. Non, c'est pas très malin, quoi. C'est pas très. Enfin, tu t'intéresses un peu à la boîte, tu postules. Mais au-delà de ça, en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est un de nos critères de, c'est un des critères de sélection pour entrer dans l'équipe, c'est quand même d'avoir.
Sachez-le. Si vous souhaitez postuler chez Sens Critique.
Ouais, mais alors, si vous y avez pas pensé avant, c'est que vous êtes pas bien malin, quand même. Enfin, bon, bref.
Non, c'est quand même toujours ça de prix.
Ouais, ouais, c'est sûr, mais je veux dire, je sais pas, tu postules dans une boîte, tu te renseignes un minimum.
Du coup, ce qui est important, c'est de faire un produit que t'aimerais bien utiliser.
Ouais, ça c'est la clé. Ouais.
Tu penses. Mais t'es déjà arrivé d'essayer de construire des trucs que tu voulais pas utiliser? Ou de rater?
Oui, bien sûr.
Rater, ouais. Ou, est-ce que ça, du coup, ça t'a amené à rater? Pardon, parce que je saute un peu.
Alors, je sais pas si ça va être la réponse. Enfin.
Parce que ce que tu me dis, c'est que t'as compris qu'il fallait construire un truc que t'avais envie d'utiliser. Du coup, la question, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé de construire des trucs justement que t'avais pas envie d'utiliser? Est-ce que c'est ça qui t'a mené à cette conclusion, en gros?
Oui, parce que on est un peu obligé. C'est une communauté, en fait. C'est pas moi. Hein. Enfin, je veux dire, on est l'équipe, c'est une quinzaine de personnes. Bah, moi, par exemple, je joue pas beaucoup aux jeux vidéo. Ouais. Donc, si tu veux, on fait quand même des développements autour du jeu vidéo et j'y participe, mais c'est pas forcément mon usage. Pareil, je critique pas beaucoup, je critique un petit peu au début, mais au final, moi, mon usage du site, c'est pas vraiment la critique. Et puis surtout, faut pas s'enfermer dans des usages. Je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs, au-delà des univers, il y a toutes sortes d'utilisateurs sur le site. T'as des mecs qui sont des anciens blogueurs ou encore des blogueurs qui adorent critiquer, donc écrire, etc. T'as des mecs plutôt comme moi qui sont plutôt journal de bord. Moi, j'adore tout lister, tout ce que j'ai vu. Tu vois, de me dire, je garde une trace de tout ce que j'ai consommé. Tu vois, quand mes enfants, ils seront grands, ça me fera marrer de leur faire découvrir les plus grands albums, mes séries, etc. Parce que je m'en souviendrai pas. Bah là, au moins, tu vois, avec Sens Critique, je m'en souviendrai. T'as des gens qui adorent commenter, qui sont dans le débat, qui sont limite dans le troll. Parce qu'on, évidemment, on en a. T'en as qui veulent faire copain-copain avec tout le monde. Voilà. Alors, t'as toutes sortes de profils, en fait, sur le site. Donc, c'est assez dur de se fixer des objectifs. En revanche, il y a un truc qu'on a appris, justement, enfin, pour revenir à ta question initiale, c'est que, on peut pas tout faire, en fait. Après, tu vois, après ces quelques années, le truc qu'on a retenu maintenant, c'est que pendant longtemps, on se disait, bah tiens, ce serait bien de faire cette fonctionnalité. Ah ouais, putain, ce serait vachement bien. Et on a eu tendance, c'était un petit peu notre défaut à une époque, à créer à chaque fois des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles options, des choses. Mais au final, en fait, à complexifier un petit peu ton produit et à le rendre pas forcément lisible avec le temps. Et donc maintenant, on a plutôt tendance... En fait, voilà, là, ce qui nous guide aujourd'hui dans nos nouveaux développements, c'est de se dire, c'est pas de se dire qu'est-ce qu'on peut ajouter, c'est qu'est-ce qu'on peut enlever. Okay. Pour revenir justement à quelque chose qui soit simple d'utilisation, quitte à ce qu'on n'ait pas forcément la petite option qui va plaire à 5 mecs sur le site. Mais à une époque, on écoutait trop les gens. On les écoute beaucoup, mais on faisait trop des cas perso, on n'avait pas une vue synthétique.
Ça me fait beaucoup penser à un produit qui s'appelle Evernote, que tu dois connaître quand tu peux prendre des notes, que j'ai connu il y a quelques années et que je trouvais bien. Et en fait, ils ont ajouté des features, ajouté des features. À la fin, tu pouvais tout faire.
Ça devient chiant à utiliser.
Si tu voulais juste prendre une petite note pour dire le code de l'immeuble, fallait que tu lances un logiciel qui prenait une heure à s'ouvrir, après il y avait des dossiers, il y avait un design un peu pourri et tout. Et du coup, j'utilise plus Evernote. Je crois que plus personne n'utilise Evernote.
Non, j'utilise pas non plus. Alors,
maintenant, je suis revenu aux notes sur l'iPhone.
Moi, je suis Simple Note, qui est archi simple.
Ouais.
Donc, on a ce truc d'aller vraiment vers la simplicité. Et en plus, après, parce qu'au final, on se rend compte aussi d'un autre truc, c'est que tu peux, au final, indirectement, toi-même, te créer tes options. Tu vois, par exemple, un bon exemple, à une époque, on avait, au tout début du site, moi, j'y tenais d'ailleurs, tu vois, ça, c'est un truc que moi, j'aimais,
on voulait. Ton visage s'illuminer.
Ouais, parce que c'est un exemple marrant. Tu pouvais dire si, un, donc le film, par exemple, quand tu l'as noté, tu pouvais dire, un, si tu le possédais physiquement.
Ok.
Tu pouvais dire si tu l'avais en VHS, DVD, etc. Si tu l'avais vu, pardon, en VHS, si tu l'avais vu à la télé, si tu l'avais vu au cinéma, etc. Je trouvais que c'était sympa comme feature. Et au final, ça alourdissait. Et on s'est rendu compte d'un truc, donc on l'a enlevé, parce que c'était trop complexe. Mais on s'est rendu compte que, y a des types qui vont se créer eux-mêmes leur liste, par exemple. Et ils vont se faire la liste des films qu'ils ont vus au cinéma. La liste des films qu'ils ont vus à la télé. Donc, si vraiment tu veux l'utiliser, tu t'appropries l'outil. Ce qu'il faut, c'est avoir les features de base qui vont faire qu'après les gens vont s'approprier l'outil.
Ils peuvent se construire leurs propres features, en fait, avec tes trucs de base.
Ce sera pas aussi parfait que s'ils avaient les 4 boutons designés pour le faire. Mais, en tout cas, ça va pas gâcher l'expérience des 99% qui ne l'utilisent pas. D'ailleurs, je reprends l'exemple, tu vois, de ma liste dont je te parlais tout à l'heure, la liste des films que j'ai vus dans l'avion. Alors, si on pourrait dire, tiens, on pourrait faire une feature, c'est ridicule, mais film vu dans l'avion. Non. Tu te crées ta liste et c'est largement suffisant.
Toi, tu vas chercher les listes des gens un peu pour trouver tes films ou...
Ouais, je rebondis, mais c'est souvent en rebond.
Okay.
C'est-à-dire que t'es sur un, Parfois, je vais être sur la fiche d'un film et je vois des listes qui remontent et je me dis, tiens, ouais, ça peut me donner des idées, ça peut me donner des idées marrantes de découverte. Ou aller sur des genres, pour le coup, que je connais pas très bien et que je découvre avec le temps, notamment le cinéma coréen ou des choses comme ça, où il y a des choses vraiment assez extraordinaires. Ça, pour ça, les listes sens critique, c'est extraordinaire.
Tu penses que il y a une base, un socle de films que tout le monde devrait avoir vu et ensuite, de là, tu dois voir les autres films?
Non.
Non, pas du tout.
Ah non, chacun doit bien sûr, ouais, c'est... Bah, c'est aussi un peu pour ça, enfin, Sens Critique, justement, l'a aussi un peu créé pour ça, c'est que y a rien d'officiel, y a rien d'institution, tu peux aimer une bouse, tu peux détester. Moi, je sais pas, tu vois, pareil, un bon exemple, tu vois, par exemple, j'ai vu très récemment, Citizen Kane.
Citizen Kane, est-ce que t'as bien aimé?
Ben non, j'ai pas aimé.
C'est chiant.
Ça fait chier.
C'est
pardon,
chiant.
Pardon, Orson Welles.
Alors, moi, je connaissais la fin de Citizen Kane parce que j'avais vu un super Picsou géant étant petit, qui reprenait l'histoire, et alors pendant toute cette Citizen Kane, je suis là, putain, mais... Ouais, c'est salut, je m'appelle Rosebud. Et je me demandais, en fait, c'est un super Picsou géant qui m'a spoilé Citizen Kane 10 ans avant.
Bah, tu vois, moi, c'est vrai, ça m'a enquiquiné, donc, ouais. Je lui ai mis 3 ou 4. Ça veut pas dire, évidemment, non, mais t'es gêné quand tu fais ça, tu dis, putain, je vais mettre 3 sur 10 à Orson Welles.
Bah, c'est comme pour les mecs qui vont mettre une mauvaise note à The Wire. C'est dur pour eux.
Ouais, mais alors eux.
Là, tu vois, là, t'es moins,
c'est,
là,
c'est,
tu...
eux, c'est pas mes copains. Non, je déconne. Mais justement, c'est ça aussi qui est bien, c'est d'avoir cette diversité et d'assumer et justement de pas être dans des carcans, à la con. Tu vois, on a un top officiel, on a le top 111 des films les mieux notés. Et honnêtement, c'est des grands classiques. Bah, tu vois, c'est 12 hommes en colère, c'est du Kurosawa, c'est du Tarantino,
les 7 samouraïs et ce genre de choses.
Voilà, ça c'est des grands classiques, c'est des très grands films auxquels on touche pas, il y a pas de souci, mais je pense que Sens Critique, enfin, c'est dit pour des gens plus jeunes, parce qu'on est quand même sur un site où les gens sont assez jeunes. On a plus de 80% de nos membres qui ont moins de 35 ans, donc on est, et avec même un cœur sur du 15-24, qui rajeunit avec le temps d'ailleurs. Donc t'as probablement des gens plus jeunes qui ont besoin de découvrir ce cinéma. Mais les vraies découvertes Sens Critique, c'est pas ça. C'est des films, à un moment, tu vas voir un film, je sais pas, tu vois qu'il a 300 notes, ce qui est pas mal, mais ce qui est pas dingue, mais tu vois, je sais pas, qu'il a 7,5, tu dis, ah ouais, c'est intéressant, et tu vas creuser. Parce que la note, parce qu'on parlait des éclaireurs, mais la note Sens Critique a quand même un vrai sens sur la qualité du film. Un bon film chez nous, c'est à partir de 5,5-6, tu peux dire que c'est un film correct. Alors après, ça dépend aussi des réalisateurs. Je sais pas, un Woody Allen qui a 6.
Il est pas bon.
Il est pas mauvais, mais c'est pas son plus réussi. En revanche, une comédie française de base, tu vois, je sais pas, genre Papa ou Maman ou des choses comme ça qui a 6, tu dis, bah tiens, le film ne doit pas être si nul que ça, c'est pas la comédie vraiment nulle. Donc à partir de 5,5-6, c'est vraiment une note correcte. À partir de 7, c'est vraiment un très bon film. Et 8, c'est le Panthéon, il y a très très peu de films. Récemment, il y a dû avoir un ou deux films qui ont dépassé 8 de moyenne.
Alors, par où on commence en fait? Parce que si moi je veux monter le sens critique de quelque chose d'autre, je te parlais de la bouffe tout à l'heure parce que j'avais un ami qui avait essayé de monter un service où justement on allait trouver des restos par rapport à une communauté d'amis, etc., qui allait noter pour un peu remplacer Yelp qui est ultra pourri en France où tous les avis sont nuls, soit faits par des Américains, soit nuls. Et qui a eu beaucoup de mal en fait à créer cette communauté ou à créer cette traction sur le service en fait. Toi, tu ferais quoi si tu devais faire ça pour les restos? Tu commencerais par quoi en fait? C'est quoi la première étape? Aller dans plein de restos et les noter et publier tes notes?
Je ferais ce qu'on a fait sur Sens Critique au début.
Ok.
On a loupé beaucoup de choses, mais il y a un truc qu'on a bien réussi, c'est vraiment le lancement du site. Et comment créer ce noyau dur qui va derrière faire ta traction. En gros, on a annoncé Sens Critique. Alors, on avait une petite chance, qui était qu'on avait un petit peu de notoriété suite à l'aventure Game Cult, notamment à travers Clément, donc un de mes deux camarades, qui était le rédacteur en chef de Game Cult, et donc qui était assez actif sur Twitter. Et donc, il avait pas mal de followers sur Twitter, qui étaient un petit peu influents. Et attention, je parle de, je sais pas, 3000, 2500, 3000 followers, hein, je parle pas de...
Ouais, mais à l'époque, ça reachait peut-être déjà plus que maintenant, en plus. 2000, 3000 followers.
Ouais, alors après, je sais pas quel devrait être le bon chiffre aujourd'hui, mais ce qui compte au départ, c'est avant même que le site, il existe. En fait, quand tu crées un réseau social, tu n'as rien au début. Tu n'as pas de contenu, tu n'as pas d'article, tu n'as rien. Donc si demain, tu ouvres ton réseau social sans membres, c'est ce qu'on appelle quelque chose qu'on cite assez souvent. C'est vraiment le syndrome de la boîte de nuit vide.
Ouais.
Tu rentres dans une boîte de nuit, elle est vide. Il y a des super lumières, une bonne musique, tout, et les serveurs sont jolis. Mais tu restes pas, quoi.
Moi, j'avais lu des histoires de mecs qui créaient. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux peupler ton site avec des faux trucs. Comme un dingue.
Ouais, mais souvent, ça peut te retomber sur la... Enfin, par rapport à ce qu'on fait, tu dois quand même avoir un minimum de qualité au début, sinon ça ouais. peut pas fonctionner. Et donc bref, donc ce qu'on a fait au début, c'est qu'on a annoncé le site avant qu'il existe. Donc on a d'abord créé le compte Twitter, Facebook. Alors ça paraît être une évidence aujourd'hui, mais en 2008, c'était pas forcément évident. Et donc on a commencé à communiquer un petit peu sur le site. Donc on a créé une légère attente, on va dire, sur la création du site. Donc les gens étaient curieux de se dire, mais putain, ça va être quoi, Sens Critique, etc. Et surtout après, on a une période de bêta qui a été assez longue. Donc on a ouvert le site. La première bêta privée qu'on a lancée, c'était un jour, on a dit, voilà, à 18h, on distribue 100 codes pour tester le site. Et donc là, t'avais pas de problème à ce que ta boîte de nuit soit vide, puisque là, t'arrives en mode testeur, etc. Et donc, à 18h...
C'est vide, mais on est les premiers, quoi.
Voilà. Et t'étais là pour tester, surtout, en plus. Nous, c'était très important pour nous d'avoir les premiers feedbacks. Et donc, on a distribué 100 codes. Enfin, à 18h, fallait que tu cliques, il y avait un code à rentrer. Et là, on était très, très heureux. Ça, c'était un très grand moment du site. C'est qu'en 5 secondes, les 100 codes étaient partis. Tout de suite. Et donc, on a réussi à créer une attente qui était un petit peu artificielle. Une semaine après, on a invité 200 membres. Une semaine après, 500. Ensuite, 2 semaines après, les membres avaient le droit d'inviter, etc. Et donc, on a fait ça pendant plusieurs mois où, en fait, on a constitué le noyau dur du site. Mais pendant tout ce temps-là, le site n'était pas accessible.
Tu cherches des vrais fans, en fait, qui vont...
qui vont faire ton noyau dur. Ce qui fait que quand on a ouvert le site définitivement, où là, tu pouvais y accéder, etc., on avait déjà... Je sais plus, peut-être 5000 ou 10 000 utilisateurs. Enfin, plusieurs milliers d'utilisateurs.
Et est-ce que le fait de faire un club en plus, de faire en sorte que les Lyonnais qui puissent pas rentrer, créer de l'engouement autour du site ou...
Probablement. Ouais. Probablement, il y avait un effet d'attente. Bah, pour paraphraser, c'est un petit peu caricatural, mais l'exemple de la boîte de nuit, c'est ouais, quand tu peux pas rentrer dans la boîte, t'as plus envie d'y rentrer que si tu peux rentrer comme ça. Mais ça, c'était plus une conséquence indirecte. Le but du jeu pour nous, c'était surtout de se dire, quand on ouvre, il faut que le site tourne. Et c'est vrai que quand on a ouvert les personnes qui sont arrivées en mode normal, il y avait déjà beaucoup d'avis, il y avait déjà un live qui tournait, il y avait une activité. Et c'est vrai que, avec beaucoup de respect pour plein de gens qui ont essayé ça, on a vu beaucoup de réseaux sociaux culturels se créer entre, à ces époques-là, et se planter, mais à une vitesse incroyable. En 2 mois, ils étaient morts, en fait. Parce que les gens arrivaient et, il y avait rien, t'arrivais sur la fiche d'une œuvre, il y avait pas de notes, il y avait pas d'avis, en plus t'avais pas de potes, parce que ça aussi c'était important, c'était de créer des connexions entre les gens, le fait que tu puisses inviter des amis à toi.
Et vous aviez direct le Facebook login ou ça arrivait ensuite? Parce que ça c'est bien, ça permet, t'arrives et t'as déjà tous tes potes sur la plateforme.
Je me pose une colle, je sais même pas si ça existait.
Je suis pas sûr que ça existait, hein. La plateforme de Facebook, ça a dû sortir en 2008, un truc comme ça.
Tu me poses. En tout cas, on l'a fait au début. Facebook, on a été très actifs très vite. En fait, on a intégré. C'est marrant d'ailleurs parce qu'à l'époque, tout le monde disait ouais, Facebook, c'est un concurrent. Déjà, on a été très flattés d'être un concurrent de Facebook. Mais surtout, c'est une connerie en fait. C'est qu'aujourd'hui, la concurrence, ça n'existe. Enfin, il n'y a pas de concurrence quoi. T'as de la complémentarité. Et au contraire, il faut utiliser aujourd'hui, que ce soit Facebook, Twitter, ou n'importe quel autre service, parce que ce sont des vrais apporteurs d'audience. Mmh. Et très clairement, ce que tu disais aujourd'hui, tu t'inscris avec le Facebook Connect. Si t'as des amis Facebook qui sont présents sur le site, tu vas tout de suite pouvoir les retrouver. Et donc, tu vas retrouver déjà des gens que tu connais.
Moi, si je veux faire mon sens critique des restos, je commence avec un tout petit groupe. Si possible, des gens qui se connaissent.
Ouais, mais c'est dur parce que le marché est déjà quand même bien occupé. Hein.
Ok.
Bah, t'as TripAdvisor quand même, hein, qui est devenu...
Tu l'utilises, ce TripAdvisor?
Ouais.
Ok.
Ouais, mais parce que... Je vais beaucoup moins au restaurant que je mate des films ou des séries ou des choses comme ça, donc j'ai pas ce même truc. Mais ouais, si je vais dans une ville que je connais pas, en gros, je vais demander à des potes, et puis après je vais aller sur TripAdvisor. Et c'est vrai que globalement, si t'arrives à peu près à lire les avis, enfin, tu t'y retrouves quand même assez bien. Mais c'est pas le même, comment dire, le côté reco perso est différent de celui d'un restaurant. Je sais pas, je veux dire une connerie. Ouais, t'aimes pas le poisson, bah tu vas pas dans un restaurant de poisson de toute façon, quoi. Alors qu'un film, même si t'aimes pas, tu vois, par exemple, tarte à la crêpe débile, mais Game of Thrones, voilà, moi j'aime pas les films de chevaliers, trucs comme ça, ça me gonfle. Mais tout le monde m'a dit, putain, il faut vraiment, enfin, mes potes m'ont dit, il faut vraiment que tu mates Game of Thrones. Et j'adore, parce qu'au final, c'est une série politique, c'est pas une série.
Il y a un vrai syndrome du j'aime pas les films avec des dragons, etc. Ouais. Tu veux pas regarder Game of Thrones. En fait, Game of Thrones, c'est génial.
Ouais, et puis c'est surtout j'ai encore des messages. Non, mais c'est surtout Enfin, c'est une série politique avant tout. Le reste, ouais, c'est de l'habillage et au final, qui est marrant. Mais donc, c'est très différent. Donc, les restaurants, c'est compliqué. Puis, t'en as beaucoup moins. Et puis, je te dis, il y a beaucoup de Il y a beaucoup de choses qui s'écrit sur les restaurants au final, et il y en a pas tant que ça qui s'écrit sur la culture. Je pense que lancer un réseau social sur les restos aujourd'hui, à mon avis, c'est un peu tard. Ou alors faut arriver avec une idée, ou faut arriver avec un facteur démarquant qui soit vraiment très fort, que je connais pas, mais c'est, moi ça me semble compliqué. Mais après on sait pas, faut trouver, enfin j'en sais rien.
Donc vous avez vendu Game Cult en 2008.
En 2007.
2007. Et du coup vous êtes devenu riche.
Non, enfin bah de quoi.
Qu'est-ce que ça, parce que je
de quoi financer sans critique.
Qu'est-ce que ça a changé toi à ta vie de vendre une boîte? Est-ce que c'est un truc que vous aviez en tête dès le départ de vendre Game Cult?
Pas forcément. Non, ça a été une opportunité vraiment pour le coup. On s'est pas mis en vente. Ça a été c'est une offre qui nous est tombée comme ça. Et après, on peut pas dire qu'on pense jamais à vendre quand t'es entrepreneur, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on avait prévu tout de suite. Mmh. Mais il y a eu un alignement des planètes qui était assez, qui fait que voilà, en gros, t'avais un groupe américain qui voulait s'implanter en France, bah, qui était en gros la maison mère de GameSpot, donc à l'époque Cinet. Jeuxvideo.com venait d'être acheté à l'époque par Imedia. On était le deuxième site. Jeuxvideo.fr à l'époque venait d'être acheté par M6. Enfin bref, il y avait que nous en gros, donc voilà. Après non, c'était une jolie vente, mais c'est pas le truc qui fait que tu peux t'arrêter de travailler. Mmh. Et puis c'est pas ce dont on a envie. Non, ça fait très plaisir. Déjà ça fait plaisir parce que ça veut dire que t'as construit quelque chose, t'es content, et puis c'est aussi une nouvelle aventure. Tu vois, ça faisait 8 ans.
Est-ce qu'on est content de sortir à un moment? On se dit ouf, je peux recommencer autre chose. Ou
faire ouais, t'es
autre
toujours chose. Partagé quand même.
Toujours partagé parce que tu laisses ton bébé aussi.
Bah ouais. Après, Kevin et Clément en parlaient plus que moi, parce que moi, au sein de l'équipe, t'avais Kevin. C'est vraiment Kevin et Clément qui ont construit le site en tant que tel, puisque c'était des vrais joueurs. Kevin était l'aspect technique, Clément était l'aspect rédaction, était rédacteur en chef. Moi, j'avais plus la dimension business, donc j'avais peut-être moins l'attachement qu'eux avaient au site. Mais eux, ils ont toujours un attachement très fort.
Souvent encore, d'ailleurs.
Ouais, bien sûr. Ouais. Ah oui, ouais, parce que Game Cult, ça a été une super aventure, ça a été on a lancé Game Cult au pire moment qu'on puisse exister, puisque c'était
la bulle internet.
Ouais, c'était 2 mois avant l'explosion de la bulle. Ça c'est voilà. Et moi je me souviens au début justement parce qu'on a lancé fin 2000. Moi jusqu'en 2003, on s'est vraiment galéré. On a vraiment galéré pour monétiser. Les gens voulaient pas entendre parler de web. Ouais, ils trouvaient ça nul. Enfin, c'est drôle, avec du recul. Ouais. Mais après, c'est toujours pareil. Je pense que quand t'en chies un peu, t'as toujours d'autant plus de plaisir quand ça fonctionne, en fait. C'est quand tu fais des vrais efforts, quand tu dois vraiment te battre, pour tout.
T'as eu peur de, que ça marche pas à un moment? Ou que vous fassiez faillite, ou que...
Alors, moi, non, mes associés, oui. Ouais. Moi, non. Non, moi, j'étais très confiant.
Pourquoi
moi, parce que j'ai une nature très optimiste, quoi.
Tu t'angoisses jamais sur
les jeux. Ouais, enfin, en tout cas, là, je l'étais pas. Non, j'avais pas peur, non.
Ok. Quand tu vends, il y a une sorte de reconnaissance ensuite qui vient, ou...
Ouais, un petit peu, mais attends, c'était une petite vente, enfin, c'était un petit site, enfin, c'était pas un...
C'était quand même... Game Cult, en tout cas, à ma génération, ça nous parle beaucoup.
Non, non, bien sûr, mais je veux dire, c'est
en
pas...
En termes de vente, ouais, peut-être.
Ça fait plaisir, voilà, mais je veux dire, ça change pas. Enfin, je dis, tu dois pas t'arrêter de travailler, quoi.
Qu'est-ce que tu trouves, toi, qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans Sens Critique ou dans Game Cult pour toi?
Je parlerais plus facilement de Sens Critique. Te dire qu'un jour t'es parti d'un dîner avec deux potes au restaurant en disant parce qu'en plus ce qui est marrant avec Sens Critique, c'est Kevin Clément d'un côté et moi de l'autre, on a eu la même idée. C'est assez marrant, on s'en était pas parlé, et un jour, j'ai dit, putain, faut que je vous vois, là, j'ai une idée, là. Et eux m'ont dit, bah ouais, nous aussi, on a une idée, c'est assez marrant, on a vu la même idée à peu de choses près.
C'est dingue.
Ouais, c'est vraiment marrant. Eux, en s'inspirant de Metacritic aux États-Unis, mm-hmm. que moi, je connaissais pas. Et moi, eux avaient plus une dimension utilisateur, et moi, plus une dimension, un petit peu plus business, où je me disais. Pas le côté pub, le côté 2.0. Mais dire, c'était la fin de MySpace, c'était l'explosion de Facebook. C'est de se dire, putain, il y a une vraie révolution qui est en train de se faire sur la transmission de l'information, le modèle, comment dire, institution qui apporte de l'information à des gens qui reçoivent ça, etc.
Ouais, vous avez enlevé l'intermédiaire un peu.
Oui, oui, c'était, enfin, on l'a enlevé, on l'a pas enlevé, disons. Moi, j'ai constaté ces trucs-là et je me suis dit, et c'est vrai que l'entertainment, c'est ce qui s'y prête le plus. C'est, on passe son temps à discuter avec des potes de ce qu'on a vu, de ce qu'on a lu, etc. Donc voilà, donc il y a eu cette conjonction qui a fait que, donc ce qui est gratifiant, ouais, c'est de te dire qu'un jour t'es parti d'là et puis au final tu vois quelque chose de se construire. Ce qui a été très gratifiant, c'est quand on a lancé le site, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand on mettait des invites et en deux secondes ça partait, ça c'était assez génial. Et ce qui est gratifiant, c'est d'être rentable. C'est con, mais pendant des années tu te bats et puis un jour tu dis, voilà, ça y est, on est à l'équilibre. Alors ce qui n'est qu'un début. Parce que derrière tu veux développer, donc etc. Mais c'est vraiment intéressant, surtout que nous on a vraiment créé un modèle spécifique qui n'est pas la pub classique. On est vraiment sur des mécaniques d'engagement, etc. Et le dernier truc qui est très gratifiant, c'est quand on organise des projos et de voir 200, 300, 400 personnes qui viennent du site pour voir des films, justement quand je parle des ciné-expériences, pour assister à des projections de films qui ne connaissent absolument pas. Ça c'est sympa parce que tu vois physiquement en fait ce que c'est de et encore c'est qu'une toute petite partie de l'équipe, mais tu vois ça les gens en vrai.
Ouais, c'est gratifiant, c'est l'impression que tu peux te créer des briques en plus dans la vie, quoi. Tu peux modeler des trucs et t'as créé une communauté.
C'est voir une idée se concrétiser.
Ouais.
Enfin, c'est vraiment se dire, t'as juste une idée, c'est trois molécules dans ton cerveau.
Ça grandit.
Et ouais. Et surtout quand c'est pas facile.
Qu'est-ce que tu ferais si tu faisais pas ça? Si ça faisait faillite aujourd'hui? Bah, faillite, mais toi, tu vas pas en prison, tu vois. Juste, t'as plus d'argent.
Bah, je sais pas, je ferais autre chose.
Ouais. C'est ce que tu ferais? T'as une idée? Tu ferais une autre boîte, quoi, en fait.
Je pense, oui.
Tu irais pas prendre un boulot?
Après, faut voir, parce que c'est aujourd'hui tu peux avoir aussi des parcours entre guillemets d'entrepreneur étant salarié. Enfin, tu peux avoir des logiques ou même être salarié, mais avoir suffisamment d'autonomie ou avoir des projets suffisamment intéressants. Je sais pas. Ce que je dis souvent en plaisant, enfin, c'est pas en plaisantant, mais si j'étais riche, je pense que je deviendrais prof, à mon avis.
Voilà. Ouais, t'aimes bien enseigner?
Prof d'histoire, non, j'aime bien l'histoire.
T'aimes bien l'histoire? Mmh.
Je pense que si les gens s'intéressaient plus à l'histoire, ils seraient moins cons. Mais, ils voteraient mieux. Mais bref, dans l'absolu, c'est ça. Mais après, non, j'aime bien. Puis c'est aussi très gratifiant de monter une équipe, de voir une équipe grandir, s'améliorer. Enfin, tout est gratifiant, en fait.
Tu lis beaucoup, toi?
Pas énormément, non. Plutôt des livres d'histoire.
Plutôt des livres d'histoire? Ouais. Qu'est-ce que tu recommanderais comme bouquin à quelqu'un que tu rencontres pour qu'il soit moins con, justement? Qu'est-ce que tu me recommanderais?
C'est une bonne question, ça. Des livres d'histoire simples, des livres de Vincent Gallo ou de Franck Ferrand ou des choses comme ça.
Dis-moi, parce que moi je vais le lire, du coup. Je lis, je suis un.
Bah, en fait, il y en a plusieurs.
Vincent Gallo, je note.
Bah, les livres de Gallo sont assez super parce qu'il aborde des thématiques très très classiques. Donc, il se fait la Révolution française, la Deuxième Guerre mondiale, Napoléon, Louis XIV, donc c'est des sujets assez classiques, mais c'est raconté avec un... Tu suis ça, bah, comme si tu lisais une série, enfin, comme si tu voyais une série avec beaucoup d'émotions, enfin, en humanisant, en fait, beaucoup...
Un peu comme Le Fouché de Stefan Zweig, ou ce genre de choses.
Alors que j'ai pas lu, mais j'imagine, ouais, tout à fait.
Et du coup, t'es un fan de biopic, ou pas du tout?
Oui.
Ouais. Dernier bio... C'est quoi ton biopic préféré? Hop. Enfin, un de tes biopics.
Ça, il faudrait que je regarde sur Sens Critique pour te dire. Un de mes biopics préférés. Voilà, j'en ai vu un très bon récemment et qui est pas sorti encore. C'est The Founder. Qui est l'histoire du mec qui n'a pas créé, mais qui a développé McDonald's.
Ah, ce bon vieux Ray Kroc ou je sais pas
Ray
quoi.
Ray Kroc, exactement.
Le mec qui arrive au McDo et qui fait waouh, les burgers sont trop stylés et qui rachète le McDo et qui fait une franchise.
Exact. Alors,
c'est les frères McDonald's qui font les burgers.
C'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin, qu'on crée même la méthodologie, c'est assez génial de voir d'ailleurs. Enfin, déjà, t'as l'histoire de McDo, ce qui est assez intéressant, ouf. Et le personnage surtout de Ray Kroc est assez génial.
C'est un mec de
Michael Keaton qui aimait démon.
Ah, Julien Lepers.
Ouais, Julien Lepers, exactement. Okay. Qui a loupé son Oscar pour Birdman, mais à mon avis, qui a des chances de l'avoir là-dessus, parce qu'il joue démon.
Le meilleur
joue...
Batman. Michael Keaton.
Que j'ai pas vu non plus, mais je suis pas un dingue des Batman, moi. Mais non, c'est assez dément, parce que c'est l'histoire d'un vieux loser. Le mec, il a 50 balais, il se bat comme un chien pour vendre ses machines à milkshake. Et voilà, et puis il va rencontrer ces mecs. Après, je vais pas spoiler, mais c'est l'histoire de ce mec et l'histoire de McDo. C'est hyper intéressant. Il y en a plein, tu vois, mais il faut que je puisse regarder mon Sens Critique.
Oui, je vais aller m'abonner à toi. Alors déjà maintenant, je suis inscrit à Sens Critique. Et puis je vais aller m'abonner à tes films et voir un peu ce que tu regardes. Merci à tous d'avoir suivi. Merci Guillaume d'avoir accepté d'être interviewé. On va partager tout ça et partager tous la vidéo sur les réseaux sociaux. Merci à tous et bonne soirée.
Bonjour maman.
Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, déjà, bravo. Ensuite, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour cela, rien de plus simple. Lancez iTunes de votre ordinateur ou Apple Podcast de votre iPhone. Cherchez Nouvelle École, allez dans la section Notes et Avis et laissez un avis. Vous pouvez choisir le nombre d'étoiles. 5 est de loin mon préféré. Merci de soutenir ce podcast et à lundi pour un nouvel épisode. Salut!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.